Bon, avec votre permission, on va lancer cette journée d'études. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Espace Mendès France pour une session qui fait partie maintenant des traditions méthodologiques de la maison. Je vais vous en dire un mot. Je laisserai la parole à Martin Aurel et Anne Bonnefoy, qui est la cheville ouvrière, hein, c'est ce qu'on dit en anatomie d'habitude. Et Sabine Romvaux, qui est ici présente, diront un petit mot de la journée. Alors, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue, et je pense aussi la bonne année, puisqu'on a encore quelques jours pour se souhaiter une année 2017 la plus propice aux projets, au développement de vos projets personnels. Donc, très, très bonne année. Dans cette salle, il y a beaucoup de têtes connues et beaucoup de têtes nouvelles. Alors, le monde étudiant est régulièrement présent dans ces journées d'études. Et à l'adresse de celles et ceux d'entre vous qui, parfois, se pose la question de savoir ce qu'un centre de culture scientifique peut bien faire sur les questions d'histoire et éventuellement sur les questions de sciences de l'homme et de la société. Alors sachez que c'est une marque de fabrique de l'Espace Mendès France que de lier en permanence la question de culture scientifique avec la question de la mise en relation des sciences, la mise en perspective des sciences à l'aune de l'histoire des sciences, de l'histoire de la pensée, mais également la mise en débat des compétences qui sont développées au sein des laboratoires d'une université, des grands organismes de recherche. Ce bâtiment qui reçoit environ 55 000 personnes par an met en scène en permanence quelque chose qui, pour nous, n'est pas nouveau, mais qui s'avère tout petit peu novateur, c'est qu'il n'y aura pas de solution dans nos sociétés si les sciences dites dures et les technologies qui envahissent nos quotidiens en permanence ne sont pas en permanence également interrogées, compris et mis en perspective. Cette mise en perspective, vous allez la faire aujourd'hui. Alors, on va remonter un petit peu loin dans le temps, puisqu'on est sur l'époque médiévale. Et si on est sur l'époque médiévale, ce n'est pas tout à fait par hasard non plus. Vous savez que Poitiers est doté d'un institut, le Centre d'études des civilisations médiévales, depuis très longtemps, largement connu au-delà de nos frontières. Et nous, quand on a commencé notre pôle d'histoire des sciences au sein de cette maison, aussi pas loin de 25 ans maintenant, c'était autour des sciences médiévales. Et on en a retiré non seulement un profit méthodologique, ce que je viens de vous dire, mais également la particularité d'avoir pu, au gré des années, mettre en place une programmation que beaucoup de mes collègues de France nous ont régulièrement, et on s'est laissé faire, repris, pillé, mis en scène différemment, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans les temps à venir si cette mise en perspective historique n'est pas faite. Donc, qu'il y ait des maths, de la physique, de la chimie, de la biologie et tutti quanti dans une maison comme ça, rien que de très normal, mais continuer à faire vivre les sciences de l'homme et de la société et ses mises en perspective historique, c'est un effort permanent de ce projet et nous y tenons. Voilà, donc journée d'études, pourquoi ? Parce que régulièrement, nous, on est amenés en tant que médiateurs, opérateurs de la diffusion de la culture scientifique à se poser des questions de ce que nous allons présenter à nos publics dans l'avenir. Ce qui se passe dans ces journées, et c'est la raison aussi pour laquelle on enregistre tout, ce qui se passe dans ces journées, nous, on en fait notre miel pour préparer un certain nombre de choses. Anne, au début des années 2000, a organisé dans cette salle, pendant 3 ans, des débats sur la question du développement durable. Personne ne parlait de développement durable à l'époque. Hein. C'est un vocable qui était complètement inconnu. On en a tiré 9 ans d'exposition, de débats. Et un des éléments de travail de ces trois années de journée d'études est devenu une exposition sur les questions de climat qu'on a traité très différemment. Plus d'un million de visiteurs dans 37 pays différents. Voilà, donc ça veut dire que ce qui se passe un matin comme celui-là ou une journée comme celle-là nous sert à nous pour donner à la programmation ultérieure une autre tonalité. Donc vous êtes les contributeurs d'une production future, je ne sais pas laquelle, peut-être une exposition, sûrement même d'ailleurs dans les années à venir. Et ce que vous direz aujourd'hui nous permettra, nous, de configurer quelque chose qui sera utile pour nos concitoyens. Voilà, donc ce petit préambule avant de vous passer la parole, Martin, pour vous dire que la maison construit aussi, grâce à vous, la programmation. C'est un exercice qu'on appellera de démocratie cognitive, comme le dit notre ami Edgar Morin, qui sera dans nos murs dans 15 jours, puisque dans cette salle, Pendant 3 jours, nous allons avec lui regarder comment est-ce que la pensée complexe permet de construire des territoires dans une autre perspective. Donc, belle perspective aussi. Martin.
Merci beaucoup, monsieur. Merci, Anne, et merci tout le personnel de l'espace Mendès France pour votre accueil, toujours chaleureux, sympathique et puis profond aussi intellectuellement. Tout ce que vous avez dit, on était en train de boire notre petit lait parce que c'est formidable de voir comment, depuis vous, vous avez plus la perspective, disons, science dure, entre guillemets, et vous nous dites tout ce que l'histoire peut vous apporter. Nous, au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, nous manquons des spécialistes d'histoire des sciences cruellement, et nous avons la chance que Sabine Rombaud, Nicolas, Maria, Joël viennent nous parler aujourd'hui à nos étudiants de master, des futurs chercheurs, doctorants. Donc là encore, on vous remercie chaleureusement. Je voudrais aussi au passage remercier Pierre-Marie Joris qui a pris en charge l'organisation de cette semaine, de cet atelier d'études médiévales et qui a très bien géré les relations avec vous. Donc merci à tous et merci pour votre accueil.
Bon, je continue les remerciements pour donc à l'Espace Mendès France, au CESCM pour la confiance qu'ils nous font depuis quelques années. Parce que je crois que ça fait 4 fois. Ouais, c'est la 4e fois que je viens avec mes collègues et c'est toujours un immense plaisir à la fois pour l'accueil, l'accueil du public, les questions que vous nous posez à chaque fois et qui nous font avancer. Et je dois dire que mes compères sont aussi contents que moi, puisque dès que je leur propose de venir à Tours, dans la journée, j'ai une réponse positive, donc pour vous dire l'enthousiasme qu'on a à venir ici. Et l'idée de ces journées, à chaque fois, c'est d'essayer de revenir sur des idées reçues concernant le Moyen-Âge, et là, cette fois, on est allé jusqu'à la Renaissance. Et j'entendais hier sur France Inter, hier matin, Patrick Boucheron, au Collège de France, qui présentait son livre et qui, à un moment donné, en réponse à une question d'un auditeur qui me demandait pourquoi on continuait à faire de l'histoire, puisque, après tout, on devrait savoir depuis très longtemps tout ce qui s'est passé. Donc, il avait répondu que, d'une part, les chercheurs en histoire aimaient bien déconstruire, et que si tout le monde s'accordait à dire la même chose, c'est qu'il y avait un loup, et que donc, que c'était jamais aussi simple que ce qu'on pouvait présenter. Mais moi, j'aurais rajouté autre chose à sa réponse, hein, qui est que la recherche avance, qu'on trouve de nouveaux textes, que concernant le Moyen-Âge notamment, il y a énormément de choses qui sont encore sous forme manuscrite. Donc, il y a des découvertes, et on en aura une cet après-midi. Donc, je suis vraiment très, très heureuse que Maria ait accepté de venir, parce que là, on verra effectivement que des nouvelles recherches nous amènent à remettre en cause des choses qui paraissaient acquises. Donc, il y a ça. Il y a de nouveaux matériaux, mais il y a aussi des regards qui changent concernant ces matériaux, ces textes qui, des fois, sont connus depuis longtemps et qu'on lit autrement. Donc, c'est ça aussi. Et ce qui, moi, m'a beaucoup apporté de ces journées, et je remercie particulièrement Anne de la confiance qu'elle me fait, c'est que, bon, on se connaît un petit peu, nous, même si on est tous à Paris, on ne se voit pas si souvent que ça. Et que ce qui m'a fasciné, c'est qu'à chaque fois, moi, je lance un thème comme ça, et que ça résonne immédiatement auprès de mes collègues, sans que j'aie besoin de leur expliquer profondément quelle était mon idée, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a une école des médiévistes en France, et qu'on est un peu tous comme ça, sur les mêmes méthodologies, sur les mêmes façons de regarder les textes, alors qu'on est sur des disciplines différentes. Moi, je suis sur les mathématiques et la philosophie, la physique. Il y a la médecine, il y a la philosophie, voilà. Mais on a comme ça une approche des textes et de cette période. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer un peu de vous montrer aujourd'hui. Mon idée étant d'essayer de voir, de revisiter cette rupture qu'on met en scène tout le temps entre un Moyen-Âge obscurantiste et une Renaissance florissante de renouveau, où, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, puisque ce renouveau vient d'un retour en arrière. 1000 ans avant, vous imaginez si demain on disait « Ah bah, allez, on remet tout en cause et on va regarder ce qui s'est passé il y a plus de 1000 ans avant. » On serait d'ailleurs en plein dans le Moyen-Âge, ça serait super intéressant pour nous. Mais bon. Donc c'est assez paradoxal, hein, que cette Renaissance, comme ça, se vive comme un moment de grand développement, enfin la science, enfin de pas vers une science enfin scientifique, j'ai envie de dire, contre en rupture avec un Moyen-Âge vraiment obscurantiste. avec cette idée qu'il ne s'est rien passé d'intéressant d'un point de vue scientifique, en mathématiques, il n'y a rien du tout. Bon, il y a peut-être des progrès techniques, mais pour le reste, en général, on explique qu'il ne s'est rien passé, que la philosophie est dominée par une scolastique avec une logique très prégnante et puis d'un côté, et puis d'un autre côté, la théologie. Bon, donc, il y a tout ce discours qu'on entend régulièrement, qu'on va remettre peut-être en cause. Mais il y a le discours des gens de la Renaissance eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont mis en scène cette rupture. Et l'idée de la journée, c'est aussi de voir, derrière les discours des acteurs eux-mêmes de la Renaissance, comment ils se sont situés par rapport à leurs prédécesseurs médiévaux. Voilà. Bien, alors je vais commencer en ce qui me concerne cette journée par les mathématiques et je vous rassure immédiatement, mais c'est bien, vous n'êtes pas tous partis en courant, on ne va pas rentrer dans des détails mathématiques, et très très peu. Je vais vous faire plutôt un parcours dans les éditions renaissantes des éléments d'Euclide et en essayant de voir comment ces éditeurs de la Renaissance s'arrangent avec leur héritage médiéval. Et donc, j'ai donné comme titre à ma conférence ce que les éditeurs des éléments d'Euclide à la Renaissance doivent à ce barbare de Campanus. C'est donc un des objectifs de cette conférence, c'est de vous expliquer barbare et pourquoi je l'ai mis entre guillemets. Alors, peut-être un petit rappel concernant les éléments d'Euclide, ils ont été composés au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une somme qui est composée de 13 livres, auxquels la tradition a rajouté 2 livres de stéréométrie plus tardifs. C'est un livre théorique, de mathématiques théoriques, qui concerne à la fois la théorie des figures, la géométrie du triangle, du cercle, etc., une théorie des proportions extrêmement importante, qui est le clou, en fait, qui est vraiment une des plus belles réussites d'Euclide dans ce livre. Une théorie des proportions qui est utilisée dans toutes les sciences jusque très très tard, au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est comme ça qu'on... C'est le langage dans lequel s'écrivent les mathématiques avant qu'on ait la notion de fonction qui apparaît très tard, au XVIIIe seulement. Les livres 7 à 11 concernent l'arithmétique, une arithmétique théorique. Dans le livre 10, qui est qualifié par certains des mathématiciens, notamment fin 16e, début 17e, de croix des mathématiciens, pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est une classification des lignes irrationnelles. Et les livres 11 à 13 sont des livres de stéréométrie, donc l'étude des solides. Alors, c'est un livre qui est, une somme qui est organisée donc en livres, chaque livre contenant un certain nombre de propositions et éventuellement des définitions et des principes, des axiomes ou des postulats qui ouvrent donc chaque livre. Et l'idée est d'une organisation logique du traité, c'est-à-dire que si vous êtes à la proposition 26 du livre 10, vous n'avez le droit d'utiliser pour la démonstration que les propositions, les théorèmes, les principes qui ont été énoncés avant. Donc il y a un ordre logique. Cette façon d'écrire les mathématiques a servi de modèle pour écrire tous les traités jusque très très tard, encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'on présente un traité de mathématiques, mise en avant des principes, des définitions et enchaînement logique des propositions. J'insiste sur ce point parce que vous allez voir que c'est un point extrêmement important après pour mon histoire. Autre point important, les éléments d'Euclide ont servi de manuel d'enseignement jusque très tard aussi, encore au 19e, en Angleterre, on utilisait les éléments d'Euclide comme manuel d'enseignement. Que ce soit de manière autodidacte, d'ailleurs, tout mathématicien digne de ce nom doit avoir lu une fois dans sa vie et plutôt possible les éléments d'Euclide, ou que ce soit à l'université, puisque dès la naissance des universités, on voit que les premiers livres, en fait, on va rarement au-delà du livre 4, les premiers livres servaient pour l'enseignement des mathématiques. Alors, comment est-ce que les éléments d'Euclide sont arrivés en Occident ? Il y a d'abord eu une vague de traduction du grec en arabe au XIe siècle. D'abord, une première traduction d'Al-Hajjaj et une deuxième traduction d'Ishaq Sabit, Ibn Unayn, révisée par Sabit Ibn Qurran. En fait, il nous reste de très nombreux manuscrits de ces diverses versions arabes, mais toutes mélangeant ces différentes versions. On n'a aucun manuscrit de la version d'Al-Hajjaj pure, aucun manuscrit de la version d'Ishaq, et aucun manuscrit avec la version d'Ishaq révisée par Sabit. C'est un mélange, en fait. Ce qui caractérise ces éditions aussi, c'est... j'ai envie de dire pour plus de 90% du texte, une grande fidélité à l'Euclide grec, tel que nous on peut le connaître grâce aux manuscrits grecs qui nous sont restés. Mais il y a quand même des changements. Changements parce que justement, comme c'est un livre qui a été énormément lu, utilisé par tous les mathématiciens, il a été commenté, il a été amélioré. On a cherché, puisque c'est un livre qui se présente comme avec une structure logique qui est stricte, du coup, les mathématiciens vont traquer les manques logiques, et il y en a, parce qu'il n'est pas parfait, en fait, ce n'est pas un livre parfait. Donc, on va rajouter des axiomes qui manquent, qu'on pense manquer, des définitions qu'on pense manquer, etc. On va même parfois inverser l'ordre des propositions en se disant « Ah bah tiens, finalement, la 10 avant la 11, c'est mieux que la 11 avant la 10, ça sera plus simple. » Mais du coup, ça amène à changer les démonstrations. On va donner des démonstrations alternatives. Hein, certaines démonstrations qu'on ne trouve pas élégantes, un peu lourdes, on va en proposer d'autres. Voilà. Donc, c'est un texte qui est vivant. C'est un texte vivant. Et donc, cette vie... évidemment, se retrouve dans les versions qu'on a au fur et à mesure des siècles. Mais je vous dis quand même, malgré ça, ce qui est assez fascinant, c'est que plus de 90% du texte est quand même très fidèle. Donc les changements sont à la marge, j'ai envie de dire, mais en même temps, d'un point de vue mathématique, souvent ces changements ont des conséquences importantes. Enfin, sont pas sans... peuvent des fois changer un peu la nature du texte. Alors, ces traductions arabes ont été traduites en latin au XIIe siècle. Donc c'est comme ça que sont arrivés en Occident, que Euclide est arrivé en Occident, par plusieurs traducteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des traducteurs très connus, hein, Adélard de Bass, Robert de Chester, Hermann de Carinthie, Gérard de Crémone. La version la plus utilisée, la plus répandue, c'est celle de Robert de Chester, dont on a plus de 140 manuscrits et qui manifestement était utilisée dans les universités pour l'enseignement. Et c'est une version très intéressante parce que dans certains des manuscrits, on n'a pratiquement que les énoncés et des versions très très résumées des démonstrations qui parfois se résume à « bon bah, si vous voulez démontrer cette proposition, utilisez la définition numérotant, l'axiome numérotant et la proposition numérotant. » Et puis voilà, donc on vous donne ce que vous avez utilisé, puis après débrouillez-vous pour faire la démonstration. Donc c'est ça la version la plus répandue au XIIe siècle, au début du XIIIe. On a aussi, je la signale, mais en fait elle a été... Pas du tout utilisé. C'est une traduction faite à partir du grec au XIIe siècle. C'est une traduction anonyme. Et on en a un seul manuscrit, ce qui prouve que ça n'avait pas du tout été diffusé. Mais elle existe. Et puis, on a eu, à partir du du XIIIe siècle, des versions commentées des éléments, dont celle qui va m'occuper aujourd'hui, celle de Campanus de Novare, qui a été composée entre 1255 et 1269 et qui a été éditée à Venise en 1482. C'est à partir de la fin du XIIIe siècle, toute personne, j'ai envie de dire, qui se réfère à Euclide, utilise Campanus. Au XIVe siècle, au XVe siècle, que ce soit les mathématiciens, mais aussi les philosophes, hein, quand ils font référence à Euclide, c'est à Campanus. Et c'est assez facile de savoir, alors soit ils le citent, soit s'ils ne le citent pas, c'est assez facile de savoir pourquoi, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est Campanus. Alors, à la Renaissance, j'ai fait redébuter mon histoire avec évidemment l'édition de Campanus, qui est la première, donc, qui est un des premiers traités de mathématiques à avoir été publié à la Renaissance, par Atold à Venise en 1482. On a plusieurs rééditions, donc avant la fin du XVe siècle, trois éditions. Et puis, apparaît en 1505. La première traduction latine faite à partir de au moins un manuscrit grec par Zamberti. On va voir que Zamberti va critiquer l'édition de Campanus. Face à la critique que Zamberti adresse à Campanus, Luca Pacioli réédite la version latine de Campanus en gommant les erreurs qu'avait fait l'éditeur Ratold dans la première édition. En 1533, on a l'édition Princeps en grec de Euclide. Puis on a une série d'éditions, alors je ne les ai pas toutes mises, mais je signale par exemple les six premiers livres par Onze Finet à Paris, les Jacques Pelletier-Dumont, on a aussi des traductions. On commence à traduire Euclide en français, en anglais, en italien. Et une des versions les plus importantes à la fin du XVIe siècle, c'est celle de Federico Commandino, qui fait une traduction latine à partir d'au moins deux manuscrits grecs, en utilisant des scoli. Et c'est cette édition qui servira de base, qui sera ensuite répandue, la plus répandue, et qui servira de base aux traductions en langue vernaculaire. Et je termine par l'édition latine de Christophe Clavius, en 1574. Alors pourquoi Clavius? Pour plein de raisons. Parce que c'est dans cette édition que la plupart des auteurs du XVIIe vont appréhender Euclide, notamment Descartes et Leibniz. Que c'est sur cette édition que j'ai fait ma thèse. Vous allez me dire que c'est pas une raison, mais je la mets aussi. Vous allez voir pourquoi elle conclut mon exposé. C'est que c'est Clavius qui m'a amené au Moyen-Âge, en fait. C'est-à-dire que Clavius aurait dû m'ouvrir vers le XVIIe, si on suit les histoires. Hein, la Renaissance étant une avancée vers le XVIIe, logiquement, la suite de ma thèse, de mes travaux, aurait dû me conduire vers le XVIIe. Et en fait, Clavius m'a conduit vers le Moyen-Âge, et j'ai essayé de vous montrer pourquoi. Alors, je vais commencer par l'édition de Zamberti. Donc je vous ai dit que c'était la première traduction latine faite à partir du grec et publiée à la Renaissance au XVIe siècle. Là, vous avez la page de titre. Et la première, elle est très jolie, d'ailleurs, cette édition. Alors, Zamberti est né à Venise vers 1473. Il est mort en 1543. Il était un élève de l'humaniste et de l'encyclopédiste Giorgio Vallant. Et c'est un traducteur du grec en latin des œuvres mathématiques d'Euclide. Outre les éléments, il a édité l'optique, la catoptrique, les phénomena et les data. Et donc, il a traduit les éléments à partir d'un manuscrit grec non identifié. Voilà ce que dit Zamberti dans sa préface de Campanus. En fait, Zamberti accuse Campanus d'avoir obscurci le texte sauvagement, barbarie excecata, d'avoir modifié l'ordre des propositions, sous-entendues, d'avoir tout mis son dessus-dessous, d'avoir ruiné l'ensemble de manière vicieuse et maladroite, de sorte qu'il produit un chaos plutôt que des éléments. Donc c'est une attaque violente. Et en fait, dans les lignes précédentes, Zamberti avait expliqué comment Euclide part des principes pour démontrer les propositions de manière convaincante. C'est ce que je vous ai expliqué au départ. C'est cette structure logique des éléments d'Euclide qui frappe évidemment tout mathématicien qui lit les éléments. Et en fait, ce que Zamberti reproche à Campanus, c'est d'avoir mis le bazar dans un texte qui pourtant était bien structuré. Et de l'avoir fait de manière sauvage, barbarie. Un peu plus loin, toujours dans la préface, il revient sur l'ordre admirable du traité euclidien, Mirabilis Ordo, et il dit alors que lui qui a compris l'ordre de l'auteur, il l'a conservé, il l'a maintenu, il a maintenu aussi la séparation entre théorème et problème, il précise qu'il n'a rien omis ni ajouté au traité, afin, dit-il, que le sens que l'auteur a voulu donner à son texte ne soit pas perverti. Donc là, il met en avant son travail de traducteur, de fidélité au texte. Il n'a rien changé, il n'a rien ajouté, il n'a rien retranché, et il a voulu garder le sens. Donc il ajoute qu'il a traduit le texte avec une attention et un soin fidèle, hein, fideli sorlesia et courant, et il fait de nouveau référence aux erreurs de Campanus, que, dit-il, il a pu réfuter grâce à l'autorité du texte grec. Donc c'est en revenant au texte grec qu'il a pu mettre en évidence les erreurs de Campanus. Et comme ça, dans tout le traité, après pratiquement chaque proposition, il y a un petit commentaire où il descend Campanus. Alors c'est plus ou moins violent. Je vous en ai choisi un. Particulièrement, ça concerne la proposition 1 du livre 8, dans lequel on donne un critère d'égalité de deux triangles. Là, je vous ai donné l'énoncé de Zamberti avec ma traduction française. Je vous ai donné l'énoncé de Campanus qui n'est pas dans Zamberti. On ne va peut-être pas perdre le temps à les lire. Le contenu m'intéresse peu. C'est, si on les... jeter un coup d'œil, vous verrez. C'est mathématiquement semblable, c'est textuellement pas identique. Hein, si vous les lisez, c'est pas tout à fait pareil. Si deux angles ont deux côtés égaux à deux côtés, chacun à chacun, s'ils ont de plus la base égale à la base, ils auront aussi un angle égal à un angle, celui contenu par les droites égales. Et là, ça commence par pour tout deux triangles, etc. Bon, bref. Il y a des énoncés qui sont bien plus divergents entre les deux versions. Là, c'est relativement proche. Et voilà ce que dit Zamberti à la suite de la proposition. Ma traduction est à revoir sûrement. C'est pas si facile que ça de traduire le latin de la Renaissance. Bon, c'est une tentative. Donc, voilà ce qu'il dit. La leçon grecque, donc il se reporte au grec. Montre que Campanus n'a pas bien traduit le théorème précédent. Bon, il n'est pas très fidèle. Les étudiants ne seront pas surpris si nous nous déchaînons contre Campanus. Car cela ne vient pas de nous, ce n'est pas de ma faute, j'y peux rien, moi. Hein. Ça vient du grec. Je me reporte au grec et je vois bien que ça ne va pas. Tout vient des leçons grecques que nous avons toujours suivies comme fidèles et vraies. C'est-à-dire qu'il apporte foi, c'est le texte grec qui fait foi, et c'est Campanus qui s'est trompé. Mais Campanus, qui semble méconnaître tout à fait la leçon grecque, bourre sa traduction de merveilleuses chimères, de fantômes, de spectres, de sorte que tu ne comprends absolument pas ce que veut Euclide. En effet, souvent, tu ne sais pas si c'est Euclide qui, Barbarousse, parle avec un vocabulaire grossier, sans logique, en éructant. Enfin voilà, c'est un peu libre hein, comme traduction. Mais ce qui m'intéresse, c'est le terme barbarousse que j'ai repris dans le titre de ma conférence. Bon, c'est pas grave. Si j'en crois un des dictionnaires de la Renaissance, du latin de la Renaissance que j'ai utilisé, barbarousse veut dire ignorant. Mais barbarousse, ça veut dire aussi étranger. Ce qu'on ne sait pas, c'est si Zamberti savait que Campanus traduisait à partir de l'arabe. C'est-à-dire que, certains interprètent ça en disant, évidemment, Campanus traduit de l'arabe au latin. Donc le barbarousse renvoie aux arabes, les barbares. Bon, je pense qu'il faut beaucoup se méfier de ce genre de... j'ai envie de dire d'anachronisme, enfin surtout en ce moment, on aurait peut-être assez envie d'aller par là, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça, enfin il y a peut-être des gens ici dans la salle d'ailleurs qui sont peut-être plus calés que moi en latin de la Renaissance hein, pour répondre à cette question, mais je ne pense pas qu'il faille aller par là. Comme je vous dis, je ne suis pas certain que Zamberti sache vraiment que Campanus traduit de l'arabe. Il a l'air de penser qu'il a un texte grec, mais que Campanus... c'est pas traduire. Donc, en fait, ce que Zamberti critique, et il le fait à d'autres moments, et pas seulement en visant Campanus, il critique les traducteurs qui sont pas fidèles. Il y a ça. Il y a aussi une critique du vocabulaire. Alors, c'est vrai que le latin médiéval hein, n'est pas le latin de la Renaissance. Le latin médiéval est un latin vivant, hein, donc qui est parfois bourré, alors qui est bourré surtout dans les textes techniques, mathématiques, de termes, de néologismes, parfois issus de l'arabe ou du grec, parce que le vocabulaire mathématique n'existait pas en latin, il a bien fallu l'inventer. Bon. Donc évidemment, on n'est plus dans la langue de Cicéron. La grammaire latine médiévale n'est pas nécessairement pas la grammaire de Cicéron. La manière d'écrire les mots. Voilà. Donc il y a certainement ça aussi comme critique de Zamberti adressée à Campanus. Hein, et là, on retrouve une critique des humanistes adressée à leurs prédécesseurs, c'est-à-dire d'utiliser une langue qui n'est pas la langue pure latine de Cicéron. Et donc il faut revenir à la fois au texte grec, mais aussi à la pureté du latin antique. Alors, est-ce que les critiques de Zamberti à l'égard de Campanus sont justifiées ? Qu'est-ce qui lui permet de dire ça ? Donc, on va revenir à Campanus. Là, je vous ai mis la première page de l'édition de 1482. Tout d'abord, ce que je dois vous dire, c'est que l'édition de Campanus n'est pas une traduction. Or, si vous lisez les histoires des mathématiques, on présente en général les éléments de Campanus comme une traduction. Ce n'est pas une traduction, en ce sens que Campanus a utilisé plusieurs versions des éléments d'Euclide, voire d'autres textes, comme l'Epistola des proportionnés d'Ahmed ibn Yusuf ou l'Almagès de Ptolémée. Il a utilisé l'arithmétique de Jordanus, le commentaire d'Anaïrisi aux éléments d'Euclide. Donc, il fait œuvre de compilateur. Déjà. Et deuxièmement, il fait œuvre de mathématicien. Et de ce point de vue-là, son édition des éléments d'Euclide est remarquable. Il a traqué toutes les failles logiques du traité. Il a généralisé des résultats. Il a ajouté de nouveaux théorèmes, de nouvelles propositions. Il a une foule de commentaires qui permettent de préciser le sens euclidien, qui éclaire le texte. C'est la mathématicienne que je suis tire son chapeau. C'est remarquable. C'est remarquable, c'est pas une traduction. Même si c'est basé effectivement sur les traductions arabes, lui-même n'a pas traduit. Il n'y a aucun original grec ou arabe que je peux mettre en face de son texte. Donc c'est un compilateur. Je vous ai donné quelques exemples du texte. Alors, je suis désolée, c'est tout flou, mais c'est pas grave, enfin, je n'avais pas mieux. Juste pour vous montrer des choses. Dès la première proposition, il y a du premier livre, il y a un ajout de Campanus. La première proposition du livre 1 demande de construire un triangle sur un segment donné. Et en fait, Campanus généralise le théorème en demandant de construire d'autres triangles. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, l'ajout de Campanus commence là où j'ai mis le cadre, et donc vous voyez que ça s'enchaîne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir où s'arrête le texte d'Euclide, parce que la première partie est plutôt euclidienne, enfin, c'est la démonstration d'Euclide, et puis après l'ajout de Campanus, donc on ne voit pas la différence. Autre chose que je voulais vous faire remarquer, c'est les définitions. Donc à gauche, vous avez les définitions Qu'est-ce que j'ai mis là ? C'est le livre 5. Là, c'est pareil. Vous avez l'énoncé de la définition. En dessous, vous avez un long commentaire de Campanus. Rien ne nous dit que c'est de lui. Quelqu'un qui n'est pas au courant peut penser que c'est Euclide. De la même manière, à droite, vous avez la proposition et puis ensuite un commentaire général de Campanus sur la proposition, sur ce qu'il vient de démontrer. Et c'est pareil, ça s'enchaîne. Voilà, donc c'est une version très très augmentée d'Euclide, et un lecteur qui n'est pas averti peut s'imaginer qu'il a l'Euclide, donc il se demande ce qu'il a en fait. Donc c'est vrai que quand les gens de la Renaissance ont retrouvé le manuscrit grec et qu'ils ont comparé, ils se sont dit bizarre quand même, hein. Ça, il s'est passé des choses, et d'où ça vient. Je vous donne un exemple un peu plus pointu pour vous montrer le type de travail que fait Campanus sur le texte. J'ai pris les définitions du début du livre 7. Donc le livre 7, c'est une théorie de la proportionnalité des nombres. En fait, dans la version de Campanus, le livre s'ouvre sur un ensemble de 23 définitions, comme chez Euclide, il y a exactement le même nombre, mais sauf que cette égalité de nombre est trompeuse, parce qu'en fait, les définitions ne sont pas les mêmes chez Euclide et chez Campanus. En effet, certaines qu'on trouve chez Campanus ne sont pas chez Euclide, et Campanus les a pris ailleurs, dans un autre traité, notamment dans l'arithmétique de Jordanus. Et puis aussi, certaines qu'on a au début du livre 7 chez Euclide, Campanus les a mis au début d'autres livres, parce qu'ils servent plutôt au livre 8, au livre 9, donc il les a mis après. Voilà. Donc il en a importé, et puis il en a mis d'autres ailleurs. Donc finalement, le nombre final est le même, mais ce n'est pas du tout les mêmes définitions. Donc je vous ai mis là les premières, où vous voyez donc que, par exemple, la définition 3 et 4, on ne rentre pas dans les détails, on s'en fiche, ne sont pas chez Euclide et les a repris à Jordanus. De même, il a ajouté des postulats et des axiomes qui ne sont pas chez Euclide, et que là aussi, il a tiré de l'arithmétique de Jordanus. Et ça, c'est parce que selon lui, il y avait un manque, c'est-à-dire que Euclide n'a pas, notamment, l'axiome de comme quoi il y a une série infinie de nombres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces axiomes et ces postulats, il les utilise. Ensuite, dans les démonstrations, il renvoie à ces postulats. Ça veut dire qu'ils sont utiles. Il en a besoin. C'est pas comme ça, c'est pas pour faire joli. Il en a besoin. Il rajoute plein d'axiomes dont une grande part il a pris à Jordanus. Ça, c'est une attitude commune à tous les mathématiciens qui travaillent sur les éléments d'Euclide, jusque très tard, encore au XXe siècle, que d'essayer de voir qu'est-ce qui manque comme axiome et comme postulat dans les éléments et d'en rajouter. Donc on en a des listes et des listes. Bon, mais il ne se contente pas de ça, il intervient aussi dans les définitions. Et comme je vous l'ai dit, et je vous ai donné juste un exemple de pourquoi il intervient. Alors, je vous ai dit, l'objet principal de ce livre, c'est la proportionnalité des nombres. Et voilà comment Euclide définit la proportionnalité des nombres. Il dit « Des nombres sont en proportion quand le premier du deuxième et le troisième du quatrième sont des écus multiples, ou la même partie, ou les mêmes parties. » Bon, peu importe le détail, la seule chose que je veux vous faire entendre, c'est qu'il définit la proportionnalité à partir des notions de partie et de multiple. D'accord ? C'est juste ça qu'il faut retenir. Alors, Campanus, lui, son texte de base, c'est l'édition de Robert de Chester dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il reprend quand même de cette édition la plupart des énoncés, des propositions et des définitions. Après, il va chercher les démonstrations ailleurs, ou quand il veut ajouter des choses, il va chercher ailleurs. Mais disons que quand même, malgré tout, son texte de base, c'est Robert de Chester, ça c'est facile à avoir, à vérifier, on compare. Or, qu'est-ce qu'il a, Robert de Chester, à la place de la définition de la proportionnalité ? Alors, Robert de Chester, lui, traduit de l'arabe. Donc là, ce qu'on a, on l'a dans l'arabe. Il a « Proportionnels sont les nombres dont le premier est dans le deuxième, de la même manière que le troisième dans le quatrième, et le deuxième dans le premier, de la même manière que le quatrième dans le troisième. Là aussi, peu importe, mais ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'on n'a ni multiples, ni parties. Et qu'on a une définition très générale où on nous explique que c'est de la même manière. Ça veut dire quoi, de la même manière? En tant que mathématicienne, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est très vague. Donc, Campanus, face à ça, s'est dit, c'est pas possible. Mathématiquement, ça ne tient pas la route. Donc, il va chercher ailleurs une définition de la proportionnalité. Il va la chercher dans l'arithmétique de Jordanus. Et voilà, il rajoute en fait deux définitions. Il dit, sont dits semblables ou l'un le même que l'autre des rapports qui reçoivent la même dénomination. Il définit ce que c'est que la dénomination. Et dit dénomination d'un rapport, précisément d'un plus petit nombre relativement à un plus grand, la partie ou les parties de ce plus petit qui sont dans le plus grand, est un rapport plus grand relativement à un plus petit, le multiple, ou le multiple et la partie, et les parties selon laquelle, etc. Bon, bref, on voit réapparaître les notions de partie et de multiple, on est content, mais on voit apparaître dans le traité euclidien la notion de dénomination d'un rapport, qui est absolument pas euclidienne, qui est médiévale, en fait, hein, et ça, c'est un ajout de Campanus aux éléments. Alors, on peut trouver une origine grecque à la notion mathématique, mais le terme de dénomination est médiéval, denominatio. Voilà. Et il y a toute une théorie de la dénomination des rapports, j'ai beaucoup écrit là-dessus, qui est très importante au Moyen-Âge. C'est vraiment quelque chose de typique du latin médiéval, et qu'on va retrouver encore à la Renaissance, et qui n'est absolument pas euclidien, et c'est Campanus qui introduit ça dans les éléments d'Euclide. Donc vous voyez le type de travail que fait Campanus sur le texte, qui, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi Zamberti l'attaquait aussi violemment. Dernier exemple de ce qui se passe quand on compare l'Euclide de Campanus et l'Euclide grec. Alors là, c'est pas la faute de Campanus, j'ai envie de le dire. Là, de nouveau, c'est son origine arabe. En fait, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, j'avoue que je ne sais plus pourquoi. Parce que le livre 10, c'est un livre tellement compliqué. Je travaille dessus régulièrement, mais à chaque fois, j'oublie parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, c'est le livre dans lequel il y a eu le plus de changements d'ordre dans les propositions. Alors, j'ai oublié combien de propositions dans le livre 10, il y en a beaucoup. Là, je vous ai donné une petite séquence entre les propositions 7 et 30. Vous voyez, il y a des propositions qui sont absentes de Campanus et de l'Arabe. Il y a des propositions qu'on trouve dans des additions, la 13... La proposition 12, elle est le numéro 8 dans Campanus, et la 13, en fait, est une addition à 8. Bon. Voilà, je pense que le tableau est parlant de lui-même. C'est, vous comprenez pourquoi Zamberti disait tout à l'heure qu'il a mis tous en dessus-dessous. Il n'a pas respecté l'ordre. Ce qui est une hérésie, puisque, en fait, on peut penser que c'est une hérésie, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Euclide, il est basé sur cet ordre logique. D'enchaînement des propositions. Donc changer l'ordre, bon, il faut malgré tout, hein, si vous lisez Campanus, ça reste logiquement tout à fait bien construit. Il n'y a pas de problème. Donc ce changement d'ordre va nécessairement engendrer des changements dans les démonstrations. Ou alors il faut essayer de montrer que des fois, si on change l'ordre de deux propositions, ça ne change rien en fait pour la suite, parce que bon. Mais voilà. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble de ce que c'est que l'édition de Campanus. Et j'insiste, ce n'est pas une traduction, sauf que Zamberti ne le savait pas et que beaucoup d'historiens, encore aujourd'hui, ne le savent pas. On continue à dire que c'est une traduction. Pour moi, ce n'en est pas une. C'est une compilation, c'est l'œuvre d'un mathématicien et donc qui intervient, qui ajoute, qui enlève, qui modifie l'ordre, qui reçoit aussi un texte qui a des certaines caractéristiques et lui fait avec ce texte, et quand ça ne lui plaît pas, ben, il va chercher ailleurs pour combler. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'en réponse aux critiques de Zamberti contre le traité de Campanus, Pacioli avait réédité Campanus. Alors, Pacioli, c'est un mathématicien. Il n'est pas humaniste. En fait, il est surtout connu pour sa Summa de Arithmetica Geometrica des Proportionni et de Proportionalité, qui est publié à Venise en 1494, qui est un traité qui résume les connaissances de son temps, notamment en algèbre. C'est un traité très très important de Pacioli. Il a aussi un autre traité connu qui est le De Divina Proportione, dans lequel on trouve de la stéréométrie et qui a été utilisé par les peintres pour la perspective. Et donc, en fait, ce que va s'attacher à faire Pacioli, c'est défendre Campanus. Et vous voyez que dès le titre du traité, il le présente comme interprété fidissimo translata, donc un traducteur fidèle. Donc lui aussi croit que Campanus est un traducteur. Et contre Zamberti, qui l'accusait de tous les maux et d'être un barbarousse, lui le qualifie de fidèle. Donc ce à quoi va s'attacher Pacioli, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de corriger les fautes qui avaient été faites dans l'édition de la Renaissance. Je disais tout à l'heure à mes collègues que c'est assez surprenant, mais dans les éditions, enfin dans les textes qui ont été publiés à la fin du XVe siècle, de textes médiévaux, il y a souvent beaucoup d'erreurs, alors qu'on pourrait penser qu'ils savaient lire les manuscrits mieux que nous. En fait, dans certaines éditions, il y a vraiment énormément d'erreurs, hein, et c'est le cas de l'édition de Ratol. Et donc, Pacioli corrige ça. Il corrige aussi les erreurs qui ont été faites dans les figures. Et il annote les passages difficiles et il change parfois les preuves. Alors, il permet quand même de mettre un peu plus en avant le travail de Campanus, mais pas encore totalement. Là, c'est pas toujours beaucoup plus clair. Alors, lui se qualifie de castigator, hein, donc de correcteur. Là, vous voyez qu'il met en avant les verba Campani. Donc, il dit bien que là, c'est Campani qui parle, Campanus qui parle. Hein. Mais par contre, je vous ai remis la même proposition que tout à l'heure, la proposition 1 du premier livre. Comme dans l'édition de Ratol, là, il ne fait pas la différence entre l'ajout de Campanus et la démonstration euclidienne. Donc, en fait, l'édition qui va être la plus importante, j'ai envie de dire, pour cette histoire, c'est une édition qui a été faite à Bâle, à Paris, en 1516, qui a été rééditée à Bâle en 1537, et là, c'est la page de titre de l'édition de Bâle que je vous ai donnée, dans lequel l'éditeur va donner en parallèle le texte de Campanus et le texte de Zamberti. Et ça, c'est extrêmement utile. Moi, je me réfère en permanence. Voilà comment ça se présente. Là aussi, c'est pas très clair. Je suis vraiment désolée. Mais pour chaque proposition, donc vous avez l'énoncé, etc., la démonstration dans la version de Campanus. Donc, c'est en bas. Euclide ex camp, donc d'après Campanus. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que la démonstration est attribué à Campanus et pas à Euclide. Et puis au-dessus, là, on a la version de Zamberti, où là, la preuve est attribuée à Théon, hein, puisqu'à la Renaissance, on pensait que Euclide n'était responsable que des énoncés et qu'en fait, c'était Théon qui avait fait les preuves. C'était responsable des preuves. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une claire distinction entre les choses. Et surtout, ce que fait l'éditeur, c'est que là, il met clairement en évidence les ajouts de Campanus. Donc là, je reprends ma première proposition, et donc la preuve qu'ajoute Campanus, la généralisation que fait Campanus, elle est bien séparée et elle est indiquée additio. Campani additio, addition de Campanus. Donc on voit bien que là, c'est pas Euclide. De la même manière, les commentaires aux définitions sont bien attribués à Campanus. Là, on sait que ce n'est pas Euclide. Et à droite, je vous ai dit tout à l'heure qu'après la preuve, Campanus commentait ce qu'il était en train de dire. Et donc là, on a bien à droite Campani annotatio. Voilà, donc cette édition permet bien de faire la différence entre ce qui relève d'Euclide et ce qui est les ajouts, les commentaires de Campanus. de la même matière, évidemment, l'éditeur mettant en parallèle les textes, quand il va arriver au livre 10, ça va être assez compliqué, parce que là, on va pas pouvoir les mettre les unes après les autres. Et donc, il relève, en fait, les changements d'ordre. Et par exemple, il va dire, bon, les deux théorèmes suivants de Zamberti ne se trouvent pas chez Campanus, là, c'est la proposition 7 et 8, où il va dire, les deux propositions précédentes de Campanus, à savoir la 22 et la 23, correspondent aux trois suivantes de Zamberti, la 24, 25, 26, etc. Donc il indique à chaque fois à quoi correspondent les propositions. Et donc, voilà, cette mise en parallèle des textes permet à la fois de voir que Campanus, c'est effectivement pas une traduction du grec, et de bien mettre en évidence les changements, les ajouts, les commentaires. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des éditions les plus importantes de la Renaissance était celle de Commandino. Alors, Commandino, qui est né dans le duché d'Urbino en 1509 et qui meurt en 1575, était un humaniste, mathématicien. Et il a publié énormément de traductions latines, de textes, notamment pratiquement tous les ouvrages d'Archimède connus à son époque, les Coniques d'Apollonius, la collection de Papus, des commentaires de Tossius, quoi d'autre encore, les pneumatiques de Héron après sa mort. Bref, c'est lui qui a permis, à la fin du XVIe siècle, un accès à plein de textes grecs dont certains n'étaient pas connus, de mathématiques dont certains n'étaient pas connus ou très peu connus au Moyen Âge. Donc il a eu un rôle extrêmement important. C'était pas qu'un éditeur et un traducteur, c'était aussi un bon mathématicien. Et j'en veux pour preuve que, par exemple, quand il publie le traité d'Archimède sur les corps flottants, il complète la démonstration de la proposition 2 du livre 2 qui concerne la détermination du centre de gravité d'un segment de conoïde parabolique, et il est le premier à produire en fait ce résultat. Donc c'est à la fois un très bon latiniste, un très bon helléniste, mais aussi un excellent mathématicien. Et donc voici comment John Murdoch, par exemple, qui a écrit l'article Euclide dans le Dictionary of Scientific Biography, présente l'édition de Commandino. Il explique qu'il a utilisé au moins un manuscrit grec, en plus de l'édition Princeps de 1533. Tout à l'heure, je vous ai dit que Grinet avait publié le texte grec en 1533. Et donc qui produit ainsi la première version des éléments qui soit fondée sur un examen critique du texte grec. Donc souvent on présente l'édition de Clyde presque comme nous, nos éditions critiques, une confrontation des versions grecques à partir d'au moins deux textes. Il ajoute que Commandino inclut dans son édition pour la première fois un certain nombre de scolies grecques, et que donc ce dernier fournit un texte latin qui est très proche des sources grecques connues. Murdoch note que l'édition de Commandino est très importante pour l'histoire du texte des éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, car elle est la source de très nombreuses traductions, jusqu'à la découverte par François Perard d'un manuscrit prétéonien. Enfin bon. Donc, excusez-moi, édition importante basée sur les textes grecs. Alors, quand même, juste pour mémoire, le texte des éléments d'Euclide, dans l'édition grecque qui fait référence, à 486 propositions. Et Commandino donne à la fin de son traité une liste de 190 propositions démontrées dans ce livre, en plus de celles qui le sont par Euclide. Donc, même s'il est humaniste, même s'il veut revenir au texte grec, il n'en reste pas moins mathématicien, et donc il va rajouter au texte grec quand même pratiquement 200 propositions, 190 propositions. Et encore, il ne les a pas toutes listées, en fait. Il y en a plus que ça, rajouté. Alors, la plupart, il les tire des scolies grecques, des commentaires. Mais il y aurait une étude à faire très précise du texte de Comandino. C'est gros, hein, les éléments de Kline. Hein. Donc moi, j'ai feuilleté, j'ai cherché dans les endroits stratégiques où je connais ce qu'a fait Campanus pour voir s'il avait tiré des choses de Campanus. Bon, c'est pas si clair. Mais il y aurait une étude à faire vraiment voilà, ligne à ligne, pratiquement pour voir à qui il a emprunté en fait, les ajouts. Juste, je voudrais vous montrer toujours le début du livre 7, puisqu'on avait vu que là, il y avait eu un travail massif de Campanus. Hein. Donc, on ne va pas retrouver chez Comandino. Mais quand même, Comandino ajoute une définition qui n'est pas dans Euclid. Et voilà comment il introduit ça. Il dit, à ces définitions, nous en avons ajouté une autre, et il nous plaît d'ajouter quelques postulats et notions communes, donc lui aussi, il rajoute, hein, qui sont utilisés par Euclid dans ce livre, comme on peut le voir. Donc, qui rajoute une définition, des postulats et des axiomes qui ne sont pas chez Euclid. La définition est numérotée 23. Peu importe son contenu, juste je vous fais remarquer qu'elle est numérotée. Que même s'il y a un jeu sur la typographie, c'est-à-dire que le texte euclidien n'est pas dans la même... comment on appelle ça ? Casse, c'est ça ? Que les commentaires, etc. Donc là, je vous ai pas mis tout le texte, j'aurais dû, c'est ma faute. Si je vous mets la proposition 22 et la proposition 23, c'est pas la même graphie. Mais en même temps, un lecteur pressé, comme il a les numérotés, pourrait très bien penser que la 23 elle est euclidienne. Par ailleurs, donc, il rajoute des axiomes, des postulats. Et je peux que remarquer que Campanus en a 3. Enfin, Campanus en a 4 plutôt, Comandino il en a que 3, et ils sont quand même très semblables à ceux de Campanus. Alors peut-être qu'il les a trouvés ailleurs, mais c'est très proche. De même, il ajoute plein d'axiomes. C'est pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui définissent, disent des propriétés sur les multiples, les parties, la mesure, etc., qui sont au cœur, en fait, du traité euclidien. Effectivement, ces postulats manquent chez Euclid. Et le tableau suivant vous montre qu'il y a les possibles que Comandino ait tiré de Campanus un certain nombre de ces axiomes, même si les énoncés ne sont pas identiques. Je ne me prononcerai pas plus. Je vous dis, il faudrait une étude extrêmement précise qui n'a pas été faite, hein, que je n'ai pas faite encore, mais pour savoir si Comandino est tributaire uniquement de ses sources grecques ou s'il a... voilà, mais il connaissait Campanus. Hein, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, dans la préface, il cite Campanus de manière tout à fait neutre, enfin, et, pas du tout... de manière polémique, comme l'avait fait Zamberti. Donc il connaît la version, et je pense qu'en tant que mathématicien, il a reconnu le travail du mathématicien de Campanus. Et je termine avec mon Clavius, que j'ai beaucoup visité quand j'étais plus jeune. Donc il produit... Alors Clavius... c'est un personnage important de la Renaissance, puisque c'est un jésuite. Il est d'origine allemande, mais il a été introduit très tôt dans la compagnie de Jésus par Loyola lui-même. Donc il est à Rome, il est au Collegia Romano, il enseigne les mathématiques, et il fonde l'Académie de mathématiques, qui est la première IUFM, en fait. C'est-à-dire c'est là qu'il va former les futurs professeurs qu'on va envoyer ensuite dans les collèges jésuites. Et il va avoir un rôle très important pour la défense d'un enseignement des mathématiques qui était encore à cette période très marginale. Il y avait très très peu de chaires de mathématiques dans les universités. Et surtout, les professeurs de mathématiques avaient un statut moins important que les autres professeurs. Notamment, ils étaient assis au fond, voilà, dans les débats publics, etc. Ils n'étaient pas assis avec les autres profs. Bon, donc, Clavius va défendre à la fois le statut des mathématiciens et les mathématiques elles-mêmes, notamment au sein de la compagnie, en expliquant en particulier qu'on ne peut pas rien comprendre à Aristote et à Platon si on n'est pas mathématicien et qu'il faut cesser de laisser aux philosophes le soin de commenter les passages mathématiques d'Aristote, parce qu'ils racontent que des bêtises, et donc il faut quand même des gens un peu formés et un peu sérieux pour lire ces passages, et donc on a besoin des mathématiciens. Donc, en fait, la production mathématique de Clavius, elle est surtout à visée pédagogique. Il a écrit des manuels pour former, en fait, ses futurs professeurs. C'est quelqu'un qui est extrêmement informé des mathématiques de son temps. Et en fait, c'est... Alors, quand je dis que c'est des manuels, c'est en même temps, c'est pas si facile que ça à utiliser, je dirais, en tant qu'étudiant, j'ai envie de dire, parce que c'est énorme, c'est des sommes. Parce que de temps, dans ces traités, il met tout ce qu'il trouve sur le sujet. Alors, notamment Euclide, qui est énorme. Un truc énorme, c'est une somme de tout ce qui a pu être écrit autour d'Euclide de son temps. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit que Comandino avait rajouté 190 propositions au livre d'Euclide. Clavius en rajoute 500. C'est-à-dire, il double le nombre de propositions d'Euclide. Et il va chercher partout. Et notamment, il va chercher dans l'édition de Campanus. Alors c'est dommage, j'aurais dû vous mettre une page. Bon, c'est pareil, il y a un jeu sur la typographie dans le texte de Clavius. Donc on arrive quand même à bien séparer ce qui est euclidien de ce qui est le commentaire de Clavius. Il y a des très 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 longs commentaires. Et tous les 500 propositions que je vous disais tout à l'heure qu'il avait ajoutées sont dans ses commentaires. Mais c'est pareil, hein, des fois le jeu des graphies fait que bon, on a des fois du mal, malgré tout, à faire un petit peu la différence. Mais, alors, même si je pense que Clavius n'a pas nécessairement traduit lui-même un texte, il a fait une édition à partir de traductions qui étaient existantes, hein, même s'il a modifié des choses, en fait, il touche très peu au texte euclidien lui-même, mais quand même, des fois, il modifie les démonstrations s'il trouve qu'il a trouvé ailleurs une meilleure, et puis il va rajouter des axiomes, des définitions, etc. Alors, voilà ce que dit Clavius dans la préface à propos de Campanus. Il le cite à côté de celui de Théon. Et je pense que là, c'est parce qu'il est, il a en tête l'édition que je vous ai montrée tout à l'heure, où on a en parallèle le texte de Zamberti et le texte de Campanus, où dans l'un, les démonstrations étaient attribuées à Théon et puis les autres à Campanus. Donc il met en parallèle ces deux commentaires et il juge Campanus tout à fait érudit. Il n'y a pas de problème. Mais il souligne que Campanus est tributaire de la tradition arabe qui a changé l'ordre des propositions d'Euclide et a perverti la méthode. Donc la Clavius sait que Campanus a traduit de l'arabe et il sait que finalement... Enfin, il attribue en fait les erreurs de Campanus au texte arabe. Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais voilà. En tout cas, il dédouane Campanus des erreurs que lui attribuait Zamberti. Et il explique que c'est les changements qu'on peut observer et qui sont donc dus aux Arabes et particulièrement perceptibles au livre 10. Alors moi, j'ai particulièrement travaillé sur le livre 5, mais pas seulement. Et là, j'ai pu noter que Clavius utilise très souvent Campanus, la plupart du temps sans le dire. Donc il faut bien connaître les textes pour repérer, en fait, les emprunts. Quand il le cite, c'est parfois pour le critiquer, plus souvent, mais parfois pour reconnaître qu'il a fait des choses intéressantes. Et je vais donner deux exemples. Par exemple, à la fin du livre 5, il y a 25 propositions dans Euclide, au livre 5, et Campanus, suivant sans doute en cela des scolies grecques, on a déjà ça dans des textes grecs, rajoute plusieurs propositions qu'on retrouve chez Comandino. Comandino renvoie aux Grecs, mais Clavius, lui, dit qu'il les a empruntées à Campanus et que c'est tout à fait utile, puisque ces propositions permettent de comprendre Archimède, Apollonius... Regium Montanus. Donc vous voyez bien aussi le souci du mathématicien, Le texte de Klein, c'est le texte de base, fondamental. Il permet aussi de comprendre d'autres auteurs. Et donc, s'il manque des propositions dans les aimants de Klein qui nous permettent de comprendre Archimède ou Apollonius, il faut les mettre dans Klein. Bon, de la même manière, il rajoute à un moment donné la converse d'une proposition et il dit qu'il l'a empruntée à Campanus. Voilà. Donc on a comme ça de temps en temps une référence à Campanus. Bon, mais il ne s'empêche pas de le critiquer. Je vais donner juste très rapidement et je conclue un exemple. En fait, un des gros reproches qu'on fait à Campanus, et encore aujourd'hui, c'est d'avoir mal interprété, mal compris la définition de la proportionnalité des grandeurs du livre 5. Et ça, c'est une hérésie, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand même, le monument, un des monuments des éléments d'Euclide, c'est le livre 5, c'est la théorie de la proportionnalité. Je vous ai dit tout à l'heure que la proportionnalité, c'est le langage dans lequel on écrit les mathématiques hein, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est particulièrement important. Et donc la définition de la proportionnalité des grandeurs est particulièrement importante. Or, cette définition est particulièrement complexe. Dans le livre 5, elle a fait du coup couler beaucoup d'encre. On a cherché des définitions alternatives, d'autres manières de définir la proportionnalité. C'est une très très belle définition qui a été encore commentée par, au XIXe siècle par Dedekind. Il y a des mathématiciens d'aujourd'hui qui voient dans ces définitions les coupures de Dedekind, peu importe, mais pour vous dire à quel point c'est important. Donc juste pour le plaisir, je vous la lis. Des grandeurs qui sont dites être dans le même rapport, une première relativement à une deuxième et une troisième relativement à une quatrième, quand des écus multiples de la première et de la troisième ou simultanément dépassent ou sont simultanément égaux ou simultanément inférieurs à des écus multiples de la deuxième et de la quatrième, et selon n'importe quelle multiplication, chacun est pris de manière correspondante. Voilà. Bon. Donc, proportionnalité définie à partir de l'écumultiplicité, et on voit en fait que ce qui se passe, c'est on prend des écus multiples quelconques et on vérifie qu'il y a, c'est le même ordre. Si l'écu multiple de la première est plus grand que celui de la seconde, ça va être pareil pour le troisième et le quatrième. En fait, chez Campanus, on a une définition en fait, voilà, Campanus hérite de Robert de Chester, en fait, une définition qui est la suivante. Les quantités, alors c'est moi qui traduis, hein, j'aurais dû vous mettre le latin. Les quantités qui sont dites être selon le même rapport, la première relativement à la deuxième et la troisième à la quatrième, sont celles dont des multiples égaux de la première et de la troisième étaient semblables à des multiples égaux de la deuxième et de la quatrième, ou bien quant à l'excès, ou bien quant au défaut, ou bien quant à l'égalité, s'ils sont pris dans le même ordre. Donc en fait, on voit apparaître un mot qui n'est pas dans les définitions euclidiennes, que j'ai mis en rouge, qui est le mot « semblable », « similes ». Du coup, Campanus commente. Et il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette similitude quant à l'excès, l'égalité, le défaut. Et il a cette phrase malheureuse, qui lui vaut un anathème encore jusqu'à aujourd'hui, le pont. Hein. Il dit... Le sens de la définition sera continuellement proportionnel sont les grandeurs dont tous les écus multiples sont continuellement proportionnels. Et là, tout mathématicien qui se respecte hurle en disant « mais c'est pas possible hein. ». Mais lui-même, d'ailleurs, dit immédiatement. Mais Euclide n'a pas voulu poser cette définition sous cette forme, puisqu'alors il définirait le même par le même. C'est-à-dire on définit la proportionnalité par la proportionnalité. On définit la proportionnalité des grandeurs par la proportionnalité des écus multiples, ce qui n'est pas possible, on se mord la queue. Voilà. Et en fait, bon, c'est une critique violente hein, qu'on retrouve à la Renaissance, qu'on a encore dans des commentaires aujourd'hui d'historiens des mathématiques contre Campanus. Moi, j'ai essayé d'écrire un article pour réhabiliter Campanus et pour dire pourquoi il a été amené à écrire ça. Et en fait, on sort, et moi aussi, là, j'ai sorti cette phrase du contexte. En fait, on peut comprendre pourquoi il en est arrivé là. Et mais surtout, aussi, la perplexité de Campanus face à un texte. Lui, il hérite de quelque chose et il faut qu'il fasse avec ce qu'il a. Donc là, il n'est pas allé chercher une définition ailleurs. Il a gardé celle-là, puis il essaie de se débrouiller avec ça. Bon, et donc, voilà le commentaire de Clavius, mais que je vous dis, on retrouve partout ailleurs. Et on doit comprendre, on doit dire que Campanus s'est trompé d'une façon étrange. Voilà. Bon, donc pour conclure, Je voulais poser une question qui était, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être mathématicien à la Renaissance, mathématicien humaniste ? C'est-à-dire que c'est bien beau, cette histoire à la Renaissance, de revenir aux sources grecques. Mais j'ai essayé de vous montrer avec l'exemple d'Euclide que revenir à la lettre des éléments d'Euclide, donc au texte du 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est se priver de tout le travail des mathématiciens qui, pendant des siècles, ont lu ce texte, l'ont amendé, l'ont enrichi, l'ont amélioré. Donc ça n'a aucun sens d'un point de vue de l'histoire des mathématiques, enfin des mathématiques elles-mêmes, que de revenir au texte initial, qui est plus mauvais, j'ai envie de dire, que notamment la version de Campanus, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est remarquable d'un point de vue mathématique. On voit ce mathématicien du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, voilà, qui a une connaissance profonde du projet euclidien, qui d'ailleurs se permet des fois de dire « Euclide a voulu », « Euclide a pensé », je trouve ça formidable, mais qui effectivement a vraiment compris le projet euclidien, qui est et cette structure logique du traité, donc il va traquer les défauts, etc., il va les corriger dans le traité, il va aussi rajouter des choses. Campanus traite d'un certain nombre d'objets mathématiques, mais il en oublie d'autres, donc Campanus va en rajouter, des solides qui ne sont pas chez Euclide, etc. Donc pourquoi se priver de ça à la Renaissance, quand on est mathématicien ? Donc même Commandino, qui est le plus humaniste des éditeurs de la Renaissance, hein, qui se fonde sur des textes grecs, va chercher dans les scoli, dans les commentaires, ce qui lui paraît manquer, fait œuvre de mathématicien lui-même quand, je pense, il est responsable, lui-même écrit des postulats et des axiomes, ou va chercher, et je pense il va chercher chez les médiévaux, les matériaux qui lui sont utiles. Voilà, je m'arrête là pour vous laisser le temps de la discussion.
Merci Sabine. Alors,
oui, Sabine, je voulais poser une question sur les manuscrits médiévaux de Campanus. Comment Campanus est-il présenté dans les colophons, comme traducteur, compilateur ?
Bonne question, je ne sais pas. Ouais. C'est une bonne question, tiens. Je vais regarder. Alors, on a énormément de textes. Il y a, je crois, 160 manuscrits. Quelque chose. Il y a beaucoup de textes. Et je ne sais pas. Mais en même temps, est-ce qu'il y aurait un mot pour dire qu'il est compilateur ? En latin, tu ne verrais ça comment ? Bon, t'en aurais un truc ? Ouais. Ouais. Non, moi, j'ai jamais vu, en tout cas. Ouais. Mais c'est une bonne question, je vais regarder.
Oui, j'aurais deux questions, peut-être un peu trop énormes. Premièrement, que connaît-on de Campanus comme personnage ?
Ah, oui,
pardon. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on sait des sources grecques découvertes ou redécouvertes au XVIe siècle avec un corollaire ? On a l'impression, quand on est béotien, qu'il y a un énorme gouffre qui est la civilisation latine elle-même. Je suppose qu'on utilisait les manuscrits grecs sans avoir besoin de les traduire.
Je comprends pas la deuxième question.
Que sait-on des sources grecques ? Vous avez évoqué des manuscrits grecs redécouverts.
Oui.
Est-ce que on les connaît bien ? Est-ce qu'on sait où ils étaient ? Quelles sont les conditions de la redécouverte ?
Ah, d'accord. Ok. Alors attendez, pour Campanus, je retrouve mon. Parce que j'ai mis des petites notes dans mon truc que vous ne voyez pas vous, mais que je vois moi. Alors en fait, il est né vers 1220, il est mort à Viterbe en 1296, et c'est quelqu'un... Ah ben vous l'avez, d'accord. Bon, Voilà. Donc, en fait, il était dans la cour des papes. Ouais. Il était dans la cour des papes. Et on lui doit une œuvre astronomique importante. Il est connu pour ça aussi. Il est connu pour son Euclide, mais aussi pour son œuvre d'astronomie. Voilà. Voilà. Et donc, pour ce qui est des... Je ne suis pas sûre de comprendre totalement votre question, mais les manuscrits grecs...
Des sources grecques.
Oui.
Vous avez évoqué des sources grecques, c'est quoi?
Ben, c'est des manuscrits. Ils avaient des manuscrits...
Est-ce qu'on les a encore?
Ah! Alors, il y a certains qu'on a encore. C'est-à-dire, des fois, effectivement, on arrive à reconnaître les manuscrits qu'ils utilisaient. Mais des fois, non. Par exemple, quand je vous ai dit que Zamberti traduit à partir du grec, on n'a pas retrouvé à quel original grec ça pourrait faire référence.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais dans la plupart des cas, en fait, on arrive à retrouver l'original grec qu'ils utilisaient.
Et un original de quelle
époque ? C'est assez tardif. En général, c'est pas avant le Xe siècle. Hein. Ouais. Et alors, pour ce qui est d'Euclide, c'est avec la grande découverte. Alors, Euclide, donc 3e siècle avant Jésus-Christ, pour ce qui est de l'Euclide grec, un événement important, ça a été Théon. Théon qui a édité Euclide et qui est intervenu sur le texte. Et donc, pendant très très longtemps, et en fait, à la Renaissance, on ne connaît que des manuscrits théonins. C'est donc que des manuscrits de cette édition tardive d'Euclide. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils pensaient que les démonstrations étaient de Théon. Et donc c'est Perard qui, au 19e siècle, trouve un manuscrit d'une version antérieure à Théon, et à la Renaissance, on ne le connaissait pas.
C'est pour compléter la question de Claude. En fait, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans la tradition grecque, on ait les mêmes... qu'on ait eu des mathématiciens qui aient complété le texte d'Euclide et que du coup les manuscrits médiévaux grecs d'Euclide soient aussi infidèles entre guillemets, ou en tout cas augmentés par rapport à la version du 3e avant?
Alors il y a eu effectivement des commentaires grecs qu'on a dans les scolies, dans les collections de scolies. C'est-à-dire qu'en général quand même les commentaires sont séparés du texte. Chez Campanus, ce qui rend les choses compliquées, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est mélangé. On n'arrive pas à faire la part entre ce qui est de Campanus, parce que ce n'est pas un traducteur, c'est un compilateur, donc voilà, il ne fait pas une traduction. Mais dans les manuscrits grecs, en fait, les ajouts, les commentaires sont en général dissociés du texte des éléments, et on a ce qu'on appelle les collections de scolies. Et ces collections de scolies ont été notamment, ce que j'ai dit tout à l'heure, utilisées par Commandino pour enrichir son édition. Mais voilà. Et mais lui aussi, il veut faire la différence entre le texte d'Euclide et le texte et les ajouts, avec ce jeu des lettres, etc. Et puis mes commentaires. Je vous dis juste que bon, quand on est un peu pressé et qu'on ne voit pas, on peut s'imaginer que tout ça c'est Euclide. Mais enfin bon, il fait bien la différence entre. Donc oui, le texte d'Euclide est vivant depuis le début. C'est un texte compliqué, c'est un texte énormément lu, énormément utilisé. Donc très 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 tôt, on a des commentaires.
Pour ma part, je m'interroge sur l'influence arabe, parce que donc au 9e, au 10e siècle, je suis très peu érudite. Et donc je suis de formation littéraire espagnole, et il court des documents sur, au Xe siècle, toute cette richesse des bibliothèques, de la recherche de connaissances qu'avait le monde arabe en circulant de Constantinople à l'Andalousie, etc. Et donc, où trouver ces textes arabes qui ont influencé... on sait peu de choses, enfin, personnel.
C'était la dernière journée d'études.
Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Madame. Non.
Vous la retrouverez sur Internet. Oui, oui. Et Sabine va répondre. Oui. Oui.
Votre question est sur les sources arabes des auteurs latins. Où est-ce qu'ils les ont trouvées? C'est ça? Pour résumer, il y a eu deux événements importants pour l'histoire de l'Occident. C'est une première vague de traduction du grec en arabe au Xe siècle, principalement à Bagdad, hein, mais pas seulement. Donc là, ça nous a permis de pouvoir d'ailleurs conserver un certain nombre de textes dont on n'a plus les originaux grecs aujourd'hui, dont on n'a plus que des traductions arabes. Mais on a traduit des mathématiques, on a traduit aussi de la médecine, hein, Joël va en parler. On a traduit Aristote, on a traduit plein de choses. Donc, voilà. Mais à côté de cet effort de traduction, on a eu aussi, pendant tout le Moyen-Âge, un apport spécifique des savants arabes eux-mêmes, qui ont produit des traités originaux. Et donc, au XIIe siècle en Europe, principalement en Espagne, mais aussi en Sicile, on avait des centres de traduction de l'arabe au latin. Alors, un petit peu de grec au latin, mais beaucoup de l'arabe au latin. Donc, à la fois des traités d'auteurs grecs et aussi des traités originaux arabes. Donc, on a traduit l'Euclide arabe, Alponus arabe, Archimède arabe, Aristote arabe avec le commentaire d'Averroès, etc., du médecin. Voilà, ça répond à votre question.
Il y avait aussi une question.
Ah oui, d'accord. Après.
Ouais.
Oui, d'accord.
La mienne, c'est plutôt peut-être une petite intervention pour compléter la première question qui vous a été posée. Parce qu'on peut considérer la définition de Bonaventura da Bagnoregio, qui a proposé des définitions pour la figure du scriptor, auctor, compilator et commentator. Et en effet, il dit que le compilator est celui qui copie les choses écrites par l'auteur, qu'il considère, et il ajoute des commentaires écrits par d'autres. Mm. Et les commentators, peut-être c'est la définition plus appropriée, parce qu'il copie des choses écrites par l'auteur et il ajoute des commentaires propres. Donc peut-être c'est oui. La définition.
Effectivement, sauf que là, moi, je rajouterais le fait qu'on on est dans une discipline un peu particulière, on est en mathématiques, et qu'en plus d'être compilateur et commentateur, Campanus, il est mathématicien. Et donc, il va intervenir sur le texte aussi en tant que mathématicien. Je vous donne un exemple idiot. Si dans un manuscrit, vous trouvez 2 plus 2 égale 5, vous faites quoi quand vous le copiez? Ça m'arrive tout le temps, en fait. J'édite des textes de mathématiques du Moyen-Âge. J'ai des fois des textes qui sont corrompus. J'ai des fois un peu de mal à laisser 2 plus 2 égale 5. Même si je l'ai dans tous les manuscrits. Je rigole, c'est pas 2 plus 2 égale 5. Mais c'est à peine plus compliqué, des fois, ce que j'ai comme faute. Alors, voilà, un mathématicien. Campanus, effectivement, il est commentateur, au sens où vous l'entendez. Il est compilateur au sens où vous l'entendez. Mais il est aussi mathématicien. Et il intervient sur le texte en tant que mathématicien. S'il trouve. Alors, il n'y a pas de faute grave chez Euclide du style 2 plus 2 égale 5. Que je serais capable de faire moi-même d'ailleurs. Mais il peut y avoir des manques logiques, il peut y avoir aussi. Alors, un bon mathématicien, ce qui caractérise un mathématicien, c'est toujours la recherche de la belle démonstration. Voilà. La plus courte possible, et la plus percutante, et la plus belle. C'est assez difficile à faire comprendre aux gens qui ne sont pas mathématiciens qu'est-ce que c'est qu'une belle. Où est la beauté? Mais nous, mathématiciens, on la voit tout de suite. Et Campanus, il fait ça. Donc c'est en ce sens-là que je ne sais pas, et je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est pour ça qu'elle est très intéressante ta question, Nicolas, et donc je vais creuser, mais jusqu'à quel point les gens de l'époque ont compris ce qu'a fait Campanus. Mais d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que les gens de l'époque, parce que...
Puisque
que l'heure de la pause approche, je ferai simplement une remarque qui servira peut-être de conclusion provisoire. J'aimerais souligner le grand intérêt de votre dossier pour l'histoire de la traduction. Ce sont des textes, des documents que les littéraires, voire même les historiens traditionnels, si on peut dire, connaissent peu. Et là, votre présentation a des vertus véritablement apéritives. Elle nous donne vraiment l'envie d'aller plus loin et de repenser en fonction de ces textes un certain nombre d'éléments relatifs à la traduction. Et c'est l'intérêt des ateliers, de cette semaine d'ateliers. Par-devers vous, il y a un dialogue qui s'installe entre les intervenants d'hier matin qui parlaient de la traduction et votre présentation. Nombre important de questions qui ont été évoquées ou débattues hier peuvent tout à fait se reposer, se réorienter sur la base de ce dossier. Alors on aimerait évidemment s'arrêter, revenir sur les premières remarques concernant Campanus et Ructati Voce, ce chaos qu'il installe dans les textes, la question de la logique qui manifestement n'est pas un invariant mais est un élément qui change en fonction du temps et en fonction des individus. Et puis, évidemment, si je reprends votre dernière interrogation sur être humaniste et mathématicien à la Renaissance, je pose une question évidemment centrale. Le Moyen-Âge qui est là, une sorte de pivot ou de charnière, contribue à faire de cet Euclide un trans-Euclide, une réalité finalement augmentée par la multiplication des traductions. Et donc ça repose véritablement toutes les questions qu'on pourra éventuellement vous poser à la pause précisément et dans la suite de la journée. Je vous remercie.
Je regrette de ne pas avoir été là hier. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un spécialiste de l'Euclide grec, un spécialiste de l'Euclide arabe, et moi qui travaillais sur les versions médiévales. Et pendant plus d'un an, toutes les semaines, pendant une journée, on s'est assis côte à côte et on a comparé mot à mot le grec, l'arabe, le latin, pour essayer de comprendre justement quels étaient les enjeux de traduction. Et on a lu énormément de choses sur les traductions, etc. Mais pour essayer de comprendre justement si, pour ce qui était dans le cadre des mathématiques, il y avait parce qu'il y a une contrainte, comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est faux, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaillait en fait les traducteurs
et
les,
et comment est-ce qu'on pense
se transmettre quoi.
Et comment est-ce qu'on pense la traduction avec problématique lexico-sémantique du Barbarousse et d'autres éléments. L'intérêt ce serait effectivement de mettre en dialogue des gens qui travaillent sur des traductions profanes, des gens qui travaillent sur des traductions bibliques ou théologiques. Karine Guibert m'en parlait à l'instant où les questions se posent et il y a là le paysage d'une pensée de la traduction par les mots qui la désigne en tant qu'activité positive, mais aussi qui la critique en tant que problématique, qui reste à faire et qui pourrait contribuer grandement à la compréhension de ce qu'on appelle, pour aller vite, la translation.
Ouais. Merci à tous.
Merci beaucoup. Vous pouvez laisser vos affaires dans la salle.